OK, on va commencer notre quatrième leçon dans notre série sur la sanctification biblique. Ce soir, nous allons regarder l'absolue nécessité de distinguer la sanctification de la justification. Alors, dans notre dernière leçon, on avait étudié jusqu'à quel point le sujet de la sanctification est important pour nos âmes. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne sommes tout simplement pas sauvés. Selon la Bible, trois choses sont nécessaires, absolument, essentielles pour le salut. La régénération, on sait que par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, la justification et la sanctification. Donc, les trois éléments sont intimement reliés et ne peuvent pas être séparés. Si une personne n'a pas un des trois éléments, il n'est pas un authentique chrétien aux yeux de Dieu. Alors, on revient souvent avec Hébreux 12, 14, mais c'est tellement important, parce que c'est sûr que dans le contexte, on parle de la sanctification progressive. Alors, le Seigneur dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, on va examiner les deux points suivants. La première, les similarités entre la sanctification et la justification. Et le deuxième point, les différences entre la sanctification et la justification. Alors, il est essentiel et d'une très grande importance de bien saisir ces notions-là. Nous devons toujours nous souvenir que la sanctification et la justification sont deux choses différentes. Cependant, elles comportent des similitudes et des points qui s'accordent et des points qui diffèrent complètement. Alors, on va commencer par la première chose, le premier point, c'est en quoi la justification et la sanctification sont similaires et s'accordent. Alors, on va les regarder. Il y en a cinq. La première, c'est que les deux, la justification et la sanctification, proviennent de la grâce souveraine de Dieu. Ce sont tous les deux des cadeaux divins. La justification est un cadeau de Dieu et la sanctification est un cadeau de Dieu. La deuxième ressemblance ou similitude, les deux font partie de l'œuvre glorieuse de salut que Christ, dans l'Alliance éternelle, a entrepris pour son peuple. Christ est la fontaine de vie, de laquelle coule le pardon et la sainteté. Les racines de chacune se trouvent en Christ. Troisième point de similitude, les deux se retrouvent dans les mêmes personnes. Donc, les élus, les croyants authentiques. Ceux qui sont justifiés sont toujours sanctifiés. Les deux sont intimement reliés, la justification et la sanctification, et ne peuvent pas être séparés. Quatrième similitude, les deux commencent au même moment. Dès qu'une personne est justifiée, elle devient aussi une personne sanctifiée, du moins dans le début de la processus et dans la progression. Le croyant ne peut pas le sentir, mais c'est un fait. Peut ne pas le sentir, mais c'est un fait. Alors, la personne qui est justifiée, que le Seigneur a commencé à faire un travail de sanctification dans sa vie, ça se peut qu'on ne le sente pas nécessairement tout de suite, mais c'est pas parce qu'on ne le sent pas que c'est pas produit quelque chose. Cinquième similitude, les deux, la justification et la sanctification, sont absolument nécessaires au salut. Personne ne peut atteindre le ciel sans un cœur renouvelé et pardonné. Et personne ne peut voir le Seigneur sans que l'Esprit de Dieu n'ait sanctifié progressivement cette personne en la préparant pour la vie céleste. Nous venons d'examiner les points sur lesquels la justification et la sanctification s'accordent et comportent des similitudes. Regardons maintenant très attentivement comment les deux doctrines diffèrent. Alors, là, ce qu'on va regarder, c'est comment la justification et la sanctification diffèrent. L'autre jour, je vous avais dit, quand on avait fait une leçon qu'on n'avait pas enregistrée, que c'était juste qu'on avait regardé un petit peu la justification et la sanctification, je vous avais dit que je vous ferais un tableau. Je me suis donné beaucoup de peine pour faire ce tableau-là, là, en ramassant de l'information ici, puis en mettant ça deux colonnes, en les comparant côte à côte. Mais je calcule que c'est important de le faire. Et je suis content de l'avoir fait pour moi-même, d'ailleurs, et pour tous ceux qui pourront en profiter. Alors, le premier point qu'on va examiner, qu'on va comparer, alors pour bien comprendre la différence, en quoi elles diffèrent, il faut les mettre côte à côte, puis regarder point par point. Et là, on comprend. Alors, on va le regarder sur l'angle de la justice. Autrement dit, la justice, dans la justification, est extérieure ou extrinsèque. Elle provient d'une autre personne, donc de celle de Jésus-Christ. Quant à la sanctification, elle est intérieure ou intrinsèque. Elle est produite par le Saint-Esprit et les efforts du croyant, même si parfois c'est dans un faible degré. Alors, vous voyez, un extérieur, l'autre intérieur. Maintenant, on va regarder les deux notions de la justification et de la sanctification sous l'angle de la justice de qui? C'est la justice de qui qu'on parle dans les deux notions. Alors, la justice de qui? Pour la justification, c'est celle d'un autre, celle de Christ, reçue par imputation, donc qui est mise sur notre compte, et par le moyen de la foi. Et la justification, elle est toujours parfaite et absolue. Alors, on voit 2 Corinthiens 5, 21, c'est un point qui exprime bien cette notion-là. Car celui qui n'a point connu le péché, celui qui n'a point connu le péché dans le contexte, c'est Christ, le Père l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Donc, c'est la justice de Christ qu'on hérite. Donc, quand on parle pour la justification, c'est la justice de qui? La justice de Christ. Maintenant, si on regarde du côté de la sanctification, pour les comparer, la justice de qui dans la sanctification? C'est la nôtre, celle qui est provoquée par le Saint-Esprit en nous et notre collaboration. Et elle est toujours imparfaite et mélangée, elle est imparfaite et mélangée de toutes sortes d'imperfections. C'est le principe donné aux croyants pour qu'ils soient capables de vivre selon Dieu. En anglais, les deux notions, moi, ça m'a pris beaucoup de temps à faire la distinction entre les deux. Imputed righteousness, puis imparted righteousness. Imputed, c'est la justice de Christ qui est mise sur notre compte, donc c'est comme une notion comptable. Tandis que celle imparted, c'est un principe que Dieu nous donne pour qu'on soit capable au moment de la régénération. Il nous la donne au moment de la régénération. Et le principe devient la base de notre sanctification. Comme ça dit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde. » Autrement dit, c'est le principe que Dieu nous donne. Imparted, ça veut dire donner. C'est le principe par lequel Dieu nous donne la capacité de vouloir avancer, obéir de plus en plus au Seigneur. Alors, vraiment, quand on comprend la différence entre les deux, après ça, on ne se trompe plus. Maintenant, à l'autre page, on va regarder les deux notions sous l'angle de la place des œuvres du croyant. Dans la justification, les œuvres du croyant sont absolument exclues. Il n'y a aucune œuvre du croyant dans la justification. La simple foi en Christ est la seule chose nécessaire. Maintenant, la place des œuvres du croyant dans la sanctification, les œuvres du croyant sont absolument nécessaires et d'une importance capitale. Là, ce qu'on a lu tout à l'heure, Hébreux 12, 14, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu nous commande de combattre, de veiller, de prier, de lutter, de faire des efforts et de travailler. Donc, ça, c'est notre responsabilité. Donc, sous l'angle de la place des œuvres du croyant, dans la justification, sont complètement exclus. Puis dans la sanctification, elles sont absolument nécessaires. Maintenant, sous l'angle de la nature de l'œuvre, la justification, l'œuvre, elle est terminée et elle est absolument complétée. Et le croyant est complètement justifié dès le moment qu'il croit. Tandis que la nature de l'œuvre, si on regarde ça du côté de la sanctification, L'œuvre de la sanctification est une œuvre imparfaite comparativement à la justification et ne sera complétée qu'au ciel. Tant qu'on va être sur la terre, on va progresser, mais on ne sera jamais rendu au bout. On va être rendu au bout quand le Seigneur va nous renouveler dans le ciel, après qu'on va être libéré de notre corps. Maintenant, si on regarde ça sur l'angle de la croissance dans la justification n'admet aucune croissance, ni aucune augmentation. Le croyant est aussi justifié au moment qu'il a cru qu'il le sera dans l'éternité. Autrement dit, peu importe l'étape dans sa vie, que ce soit après un an de vie chrétienne ou que ce soit après 25 ans, tu n'es pas plus justifié après 25 qu'après 1. Maintenant, en termes de croissance, est-ce qu'il y a une croissance dans la sanctification? La croissance dans la sanctification, elle est progressive. Elle admet de la croissance et de l'élargissement aussi longtemps qu'un homme vit sur terre. Maintenant, quand on regarde encore les deux notions, ça fait référence, sous l'angle de l'œuf, que ça fait référence à qui? La justification fait référence aux personnes des croyants et de leur position devant Dieu. C'est ça qu'on appelle souvent, c'est ça qu'on appelle les saints, on appelle les personnes qui sont sauvées les saints, parce que des fois, c'est là que la confusion vient, des fois, je pense, à cause que du fait qu'il y a des mots qui sont utilisés qui peuvent varier. Quand on est déclaré saint devant Dieu, on parle de la déclaration de la justification. Mais aussi, ça implique qu'un saint, dès qu'il est justifié, ça va ensemble, il va se sanctifier aussi, ou Dieu va s'en occuper. Maintenant, ça fait référence à quoi dans la sanctification? Ça fait référence à nos natures. Autrement dit, avant, on avait une nature qui ne voulait rien savoir de Dieu, qui n'avait qu'un seul goût, qui est de continuer à pécher continuellement. Maintenant, à partir du moment où on est justifié, Dieu donne à nos natures la capacité et un renouvellement de nos cœurs qui nous permet de progresser et de plus en plus obéir à sa parole. Maintenant, la justification, on va regarder ça sous un autre angle, celle du rapport avec le ciel. Alors, dans la justification, c'est Dieu qui nous donne notre billet. En anglais, c'est « our title », notre titre, notre droit d'entrée, autrement dit, pour le paradis. Ça donne l'assurance nécessaire pour entrer dans le lieu saint. Quand on chante des fois la chanson 352, « J'entrerai dans le lieu saint », on ne rentre pas dans le lieu saint parce qu'on s'est sanctifié sur la terre. On rentre dans le lieu saint parce que Dieu nous a justifiés à cause de la justice de Christ. Alors, notre rapport avec le ciel, ça nous donne notre billet et ça nous donne l'assurance nécessaire pour entrer dans ce saint lieu. Maintenant, le rapport avec le ciel pour la sanctification, c'est qu'elle nous prépare, elle nous donne notre préparation pour apprécier le ciel lorsque nous y habiterons. Autrement dit, le rôle de la sanctification progressive, c'est de nous habituer à aimer de plus en plus ce qui va se passer au ciel, pour que quand on va arriver, on ne dit pas, ben, on va tellement avoir hâte de connaître la plénitude de ça, tant qu'on est sur la terre, il nous prépare. Parce que s'il nous aurait envoyé dès comme pécheur là-dedans, on ne sera pas heureux au ciel. Une personne qui n'est pas sauvée ne sera pas heureux au ciel. Alors, si le Seigneur permet que tu vis 30, 40 ans, il te prépare à la vie céleste. Alors, il y en a un, c'est ton billet. C'est comme quand tu vas au cinéma, tu payes ton entrée. Alors, la justification, c'est ton billet. Puis, l'autre, c'est une préparation. Donc, c'est un peu comme un athlète qui veut faire quelque chose. Il faut qu'il s'entraîne pour aller au ciel. Maintenant, nos rapports, sous l'angle des rapports avec nos personnes. Alors, la justification est un acte divin à propos de nous. En anglais, ils disent « about us ». La justification, c'est « about us ». Tandis que l'autre, c'est vraiment « in us ». C'est pas la même chose. Alors, un acte divin à propos de nous, ce n'est pas... Et la justification n'est pas facilement discernable par les autres. Le jour où tu es justifié, personne ne va le voir. Mais la sanctification, quand Dieu va te travailler, les gens vont te regarder, ils vont dire « Ah, tu n'étais pas de même avant, tu as changé là-dessus. » Alors, on voit que Dieu travaille en nous pour de plus en plus nous habituer à ressembler davantage à Jésus-Christ, et il le fait progressivement. Alors, pour la sanctification, les rapports avec nos personnes, c'est une œuvre divine à l'intérieur de nous. L'autre, c'est « about us », celle-là, c'est vraiment « in us ». Elle ne peut être cachée dans ses manifestations externes aux yeux des hommes. Normalement, quelqu'un sanctifié, ça paraît aux yeux des autres. Alors ça fait notre tableau. Quelqu'un qui maîtrise ce tableau-là ne fera plus jamais d'erreur entre les deux notions. Si vraiment tu maîtrises ça, tu as compris. Alors, nous ne serions trop insistés pour que les auditeurs et les lecteurs de cette leçon réfléchissent attentivement à tous ces points et les méditent sérieusement. Les différences entre la justification et la sanctification se doivent d'être pleinement comprises pour éviter des dérapages et de sérieuses erreurs théologiques. Dans les premières leçons, on avait regardé les certaines erreurs, le dérapage, croire qu'on peut, qu'on pêche plus, qu'on atteint de sinless perfection. Alors, c'est vraiment des... Si tu comprends mal la différence, tu vas déraper. Alors, c'est l'importance de bien comprendre. Alors, révisons brièvement quelques versets pour une compréhension plus éclairée de la doctrine de la justification. J'ai marqué « pour éclairer », mais ça, je pense que ça serait plus éclairé. Alors, l'auteur de la justification. Dans les Écritures, dans Romains 8, 33, ça nous dit « qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. » La cause maintenant de la justification, Romains 5, 8, « mais Dieu fait éclater son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, on a l'auteur, Dieu, la cause, on a vraiment encore Dieu. La base, sur quelle base Dieu peut déclarer quelqu'un juste, Romains 3, versets 24 à 26, « et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ces temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc, la base de la justification, c'est l'œuvre de Christ, à la fois dans sa vie terrestre d'obéissance parfaite et à la fois dans ce qu'on peut appeler l'obéissance passive. Donc, on a l'obéissance préceptive et l'obéissance pénale. Les deux ont été faits par Christ. Les moyens maintenant de la justification, Romains 5, versets 1 et verset 9, « étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison, serons-nous donc sauvés par lui de la colère de Dieu. » Maintenant, la nature de la justification. Alors, là, il y a différents sous-points de la nature de la justification. Alors, c'est une justification qui est déclarée par Dieu lui-même. On l'a vu tantôt dans Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. C'est aussi une justification qui est irrévocable et définitive. Alors, Hébreux 10, 14, par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est une justification par grâce et bien sûr gratuite. Titre, chapitre 3, versets 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Et c'est aussi une justification, c'est instantané. Quand Dieu accorde la grâce, c'est tout de suite et tu gardes ça toute ta vie. C'est pour ça l'importance d'une bonne compréhension, parce que si le salut, tu l'as vraiment reçu, tu ne peux pas le perdre, parce que tu étais déclaré juste de la part de Dieu. Acte 13, versets 38 et 39. « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée, et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. » Maintenant, on va regarder le point des bénéfices de la justification. Alors, Dieu met au compte des élus deux choses par imputation. Alors, c'était un peu une répétition, parce que mettre au compte, ça veut dire imputation. Alors, Dieu, première chose, premier bénéfice de la justification, Dieu accepte que Jésus-Christ ait payé l'équivalent de la punition qu'auraient dû subir les élus à leur place comme substitut, et à ce titre, pardonne leurs péchés. On parle ici de justice pénale. Colossiens 2,13. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Alors, quand on est justifié, toutes les fautes sont pardonnées. Deuxième chose qui est un bénéfice de la justification, Dieu voit les élus comme n'ayant jamais brisé les 10 commandements et comme s'ils avaient personnellement accompli la parfaite obéissance de Christ sur la terre face à ces mêmes 10 commandements de Dieu. Philippiens 3,9, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Maintenant, on va regarder quelques réflexions pratiques concernant ces observations-là qu'on vient de voir dans les similitudes et les différences entre les deux doctrines. Alors, la première, les chrétiens professants seulement sont dans un danger périlleux. Les Saintes Écritures nous donnent de solennels et sérieux avertissements. Nous devons impérativement en tenir compte. Notre destinée éternelle en dépend. On revient encore avec Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est à craindre qu'une grande proportion de ceux qui fréquentent les églises de nos jours sont engagés sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. La pensée est d'une telle intensité qu'elle nous écrase et nous submerge. Les prédicateurs se doivent de marteler ces vérités avec autorité pour avertir de ce très grave danger et prier pour que Dieu leur donne de voir le véritable état des âmes qui les entourent. Si des âmes non sanctifiées peuvent entrer au ciel, la Bible n'est pas vraie. Cependant, nous savons que ce n'est pas le cas et que la Bible est vraie et ne peut mentir. Donc, premier point, les chrétiens professants seulement sont dans un danger périlleux. Deuxième point, assurons-nous de notre propre condition. Ne nous accordons pas aucun repos avant d'avoir la certitude que nous nous sanctifions. Quels sont nos goûts? Quels sont nos choix? Quelles sont nos affections? Quelles sont nos inclinaisons? Voilà une question qui nous sonde. Cela importe peu ce que nous désirons, ce que nous espérons, ce que nous voulons être avant de mourir. L'important est où nous sommes présentement. Où nous dirigeons-nous? Sommes-nous authentiquement sanctifiés? Si la réponse est négative ou hésitante, c'est très certainement de notre faute. Troisième chose, si nous nous sanctifions, soyons persuadés que tout commence avec Christ. Nous devons aller à lui comme pécheurs, avec aucun autre plaidoyer que notre immense besoin de jeter notre âme à ses pieds pour implorer. Nous placer entre ses mains, comme dans les mains d'un bon médecin, et demander grâce. Le premier pas vers la sanctification, comme pour la justification, est de venir à Christ pour recevoir la foi. Nous devons être d'abord vivants avant de se purifier et œuvrer pour lui. Quatrième observation, nous devons persévérer et toujours venir à lui pour nos besoins. Il est la tête qui peut pourvoir à tous les besoins du corps. Nous sommes ses membres, Éphésiens chapitre 4, verset 16, de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Nous devons tirer notre force de lui. C'est le secret de la sanctification progressive. Alors, c'est de se rendre compte que beaucoup de choses que le Seigneur veut, qu'on se rende compte qu'on n'est pas capable de les faire. C'est drôle, hein? C'est quand on se rend compte qu'on n'est pas capable, c'est là qu'on est dans un bon état, parce que là, on va le voir. On va à la source de la capacité de faire ce qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Alors, le cinquième point, c'est « N'expectons pas trop de nos propres cœurs ici-bas. À notre meilleur, nous trouverons toujours en nous des causes pour notre humiliation quotidienne. Nous découvrirons constamment que nous sommes toujours en besoin de sa miséricorde et de sa grâce à toute heure. Plus nous avons de lumière, plus nous verrons clairement nos imperfections. Pécheurs nous étions lorsque nous sommes venus à Christ, et pécheurs nous resterons jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Notre sanctification ne sera parfaite qu'au ciel. » Et sixième point, « N'ayons jamais honte d'avoir de très hauts standards de sanctification et du combat qui l'accompagne. Ne nous contentons pas d'un degré et d'une volonté de sanctification médiocre. Ne soyons pas satisfaits de seulement assister au service de l'Église. Poursuivons sérieusement, puissamment et constamment notre sanctification et recommandons aussi cette voie aux autres. C'est la seule façon d'être heureux sur cette terre. Comprenons que la sainteté, c'est le bonheur. L'homme qui mène la vie spirituelle la plus confortable dans cette vie est celui qui se sanctifie. » Proverbe, chapitre 3, verset 17, « Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers conduisent à la paix. » Psaume 119, verset 165, « Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les renverser. » Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Ésaïe 48, verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Nous joignons en annexe, ci-après, quatre documents qui peuvent être très utiles pour une meilleure compréhension du concept de l'imputation. Il y a celui en français intitulé « Illustration sur la signification du concept de l'imputation » a été imaginé par moi-même lors de mon séjour à l'école biblique. Le concept d'imputation peut utiliser un concept comptable, celui de mettre sur le compte de quelqu'un soit un crédit, soit un débit. Alors, je travaillais en comptabilité à l'époque et ça m'avait grandement éclairé. Celui en anglais, il s'intitule « The ground of justification is the work of Christ » a été tiré du livre de David H. Steele et Curtis C. Thomas et le titre c'est « Romans An Interpretative Outline », 214 pages, document qui est disponible au prix de $14.50 chez solascriptura.ca et a été d'une aide très précieuse pour comprendre le concept d'imputation à l'aide d'un schéma. J'ai traduit ce schéma-là en français et je l'ai joint en annexe sous le titre de « La base de la justification est l'œuvre de Christ ». Alors, celui en anglais, intitulé « Illustration of what imputation means » qui est ma traduction anglaise. Alors, je vous ai mis, autrement dit, les deux documents que je vous avais mis la dernière fois en anglais, et j'ai trouvé les meilleures copies, et j'ai traduit les deux documents de manière à ce que vous allez pouvoir constater qu'est-ce que c'était en anglais, puis comment, moi, je l'ai traduit en français. Alors, on regardera tout à l'heure les applications, mais en attendant, je me suis donné beaucoup de trouble pour faire ce petit schéma-là, parce que, moi, vous dire une affaire, faire ce genre de choses-là avec Word, c'est vraiment pas évident. Alors, si vous regardez le concept en anglais, c'était celui-là. Puis moi, j'ai fait ça avec. Alors, c'était pour votre, par amour pour vous autres, pour que vous l'ayez en français. Aujourd'hui, on disait, ça existe-tu en français? Ça n'existait pas la semaine passée, ou la deux semaines. Maintenant, ça existe. Et je suis content de pouvoir le mettre sur Internet parce que ça va peut-être pouvoir démêler des personnes. Alors, ça voit, on va le faire en français. C'est l'anglais. Je fais tout simplement mentionner que les gens vont pouvoir l'avoir disponible et l'imprimer. Alors, la base de la justification, on l'a vu tantôt, c'est l'œuvre de Christ. Le moyen de la justification, c'est la foi en Christ. Alors, quand on regarde, on a la croix, on a la flèche qui monte vers la croix. L'œuvre de Christ est la base ou le fondement de la justification. 2 Corinthiens 5:21. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous, nous devenions justice de la justice de Dieu en lui. Voyez-vous, les deux côtés, là, c'est bien important de les comprendre. Quand on les comprend, on arrête de se mélanger. L'obéissance active de Christ. Souvent, en théologie, on va dire en anglais, souvent les anglophones utilisent « active obedience » puis « passive obedience ». Alors, quand on regarde, qu'est-ce que c'est le « active obedience »?« Active obedience », c'est la justice préceptive. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que Dieu exigeait que tu aies accompli, obéi à la perfection, aux 10 commandements toute ta vie, sans aucun manquement de toute ta vie. Alors ça, c'est l'obéissance préceptive. Vu qu'on ne l'avait pas et que Dieu l'exigeait, il fallait que quelqu'un d'autre l'ait accompli à notre place et que ça soit mis sur notre compte. Alors c'est ça, la justice préceptive. Alors la petite explication que j'ai mis en dessous de la justice préceptive, par sa vie sans péché et sa parfaite obéissance à la loi. Et quand Christ est venu, non seulement c'est à la loi morale qu'il obéit, mais il obéit aussi à la loi civile et aux lois cérémonielles de l'époque, parce qu'il est encore sous la loi. Christ a accompli substitutivement, à leur place, à la place des élus, la parfaite justice exigée par le Père pour son peuple. Et quand vous regardez du côté droit, là, vous avez l'obéissance passive. C'est des drôles d'expressions, c'est plus ou moins juste, parce que quand on parle de passif sur la croix, est-ce que Christ était passif en ce sens qu'il n'était pas en train de marcher, il n'était pas en train de faire des choses, mais il était en train d'accomplir une œuvre extrêmement importante. Mais en théologie, on l'a appelé passive. Alors ça, c'est la justice pénale. Autrement dit, chaque pécheur, à cause des péchés qu'il a dans sa vie, d'abord, sa nature pécheresse, il est responsable de ça à cause de que ça nous dit dans Romains 5:12 qu'on était en Adam et que nous aussi, on participait au péché d'Adam. Et après ça, il y a l'héritage qu'on a eu de la nature pécheresse, mais après qu'on vient au monde, on commence à pécher tout de suite dans le non-monde. Alors, on pêche toute notre vie en pensée, en parole, en action, en omission et en faute secrète. Alors, les cinq choses. Alors, pour chacun de ces péchés-là, un seul nous aurait mérité de vivre en enfer pour l'éternité. Alors, il fallait que quelqu'un paie. Si ce n'est pas nous qui paye, c'est Christ. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui paye. Alors, la justice pénale, alors l'explication que j'ai mise en dessous de la justice pénale, par sa mort sacrificielle et ses souffrances à la croix, Christ a payé à la place de ses élus la punition qu'ils auraient dû subir. Alors, quand on regarde la deuxième flèche en bas, on voit que qu'est-ce qui unit le croyant? C'est la foi. La foi unit le croyant à Christ. La foi en Christ est le moyen par lequel les bénéfices de son œuvre salvatrice sont reçus. Alors, l'obéissance active de Christ est imputée ou créditée ou mise sur notre compte de ceux qui croient. Parce que quand on comprend qu'imputation, ça veut dire mis sur notre compte, crédité, c'est comme, je ne l'ai pas mis, oui, je l'ai mis de l'autre côté. Après ça, on a sur le côté droit, l'obéissance passive libère le croyant de sa culpabilité parce que Christ a payé pour celle-ci, à sa place, par ses souffrances et sa mort à la croix. Alors, le pécheur croyant voit ses péchés imputés ou crédités au compte de Christ, qui a payé pour ceux-ci. Alors, on voit que c'est un transfert. Moi, ce que j'avais préparé, c'était les deux comptes qui étaient à l'autre page en arrière. Mm-hmm. Vous avez vraiment, en français, je vous l'avais donné, je pense, la dernière fois, mais si vous voulez vraiment bien comprendre la doctrine de la sanctification, de la justification, ces deux feuilles-là, pour moi, ça a été un éclairage extraordinaire. Alors, vous pouvez comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est la justification. Et par le concept des comptes, autrement dit, le Seigneur, il prend nos péchés, il les mène à le débit de Christ. Il prend tout ce que le Seigneur a fait de bon, puis il le mène à notre crédit. Alors, et tout ça est bien expliqué en détail. Je vous invite à regarder ça et à méditer là-dessus. Demandez que le Saint-Esprit vous éclaire. Parce qu'à partir du moment qu'on a compris ça, il y a bien des erreurs en théologie qu'on ne peut plus faire. Là. C'est sûr et certain. Alors, ça va finir là. Et l'autre, bien, tout simplement, c'est la même chose en anglais. C'est pour que... celle-là, c'était ma traduction de moi, ce que j'avais fait en français, en anglais. Et l'autre côté, c'était ce qui est sorti du livre de Romans, an Interpretative Outline. Alors ça, c'est vraiment très important de saisir ces choses-là et de garder en mémoire. Parce que si on garde ces choses-là en mémoire, des erreurs sans sanctification, je ne dis pas que ce n'est pas possible que vous en fassiez encore, mais ce ne sera très certainement pas des choses à salut, autrement des choses importantes. Alors, j'ai mis trois applications. La première, faisons un effort pour bien intégrer les similitudes, ce en quoi s'accordent les doctrines de la justification et de la sanctification, et surtout les différences entre les doctrines de la justification et de la sanctification. Priez l'Éternel de vous éclairer et d'ouvrir votre intelligence à cet effet. Deuxième application, révisez les quelques réflexions pratiques au troisième point de cette étude. Il ne nous suffit pas de comprendre la doctrine, il faut la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Comment tu comprendras ce que c'est la sanctification si tu ne te sanctifies pas, c'est dit que tu ne verras pas le Seigneur. Troisième, prenez du temps pour étudier attentivement les documents qu'on vient de regarder en annexe. Ils m'ont été personnellement d'une grande aide pour clarifier ma compréhension. Ces notions ont une grande portée pratique dans notre marche chrétienne, beaucoup plus grande qu'on peut croire. Une grande portée. Alors, que notre grand Dieu bénisse notre étude et éclaire votre compréhension, notre compréhension, des doctrines de la justification et de la sanctification pour sa plus grande gloire.